France Inter, un ami nommé Jacques Brel, un feuilleton de la RTBF et des médias francophones publics. Aujourd'hui, l'homme, Dieu et la mort.
J'ai besoin de preuves, moi. Oula, j'ai besoin de preuves. De moi. J'ai besoin de preuves. Et quand j'étais petit, j'aimais beaucoup faire du vélo de course, en effet, très longtemps. Et j'avais un jeu parfaitement idiot, qui me paraît parfaitement anormal, et je continue à vivre comme ça, d'ailleurs. Je faisais les tours, j'avais trouvé une espèce de fausse piste, enfin, dans les faubourgs de Bruxelles, derrière chez nous, enfin, là. Et je roulais jusqu'à tomber. Et à la fin, je tombais pas, mais c'était l'épuisement total, et j'étais heureux. Et encore maintenant, les soirs où je m'évanouis plutôt que je ne m'endors, je me dis que c'est une belle journée, c'est une bien belle journée.
Elle est en haut, s'ennuie le dimanche, quand il s'agit de courir pour nous. Un peu de sable, du soleil et des planches, un peu de sang pour faire un peu de boue. Mais c'est l'heure où les épiciers se prennent pour Don Juan, c'est l'heure où les Anglaises se prennent pour Monterland. Qui nous dira à quoi ça pense, un taureau qui tourne et danse et s'aperçoit soudain qu'il est tout nu. Qui nous dira à quoi ça rêve, un taureau dont l'œil se lève et qui découvre les cornes des cocus. Olé ! Les taureaux s'ennuie le dimanche quand il s'agit de souffrir pour nous. Mais voici les picadors et la foule se venge. Voici les toreros, la foule est à genoux. Et c'est l'heure où les épiciers se prennent pour Garcia Lorca. C'est l'heure où les Anglaises se prennent pour la Carmencita. Les taureaux s'ennuie le dimanche quand il s'agit de mourir pour nous. Mais l'épée va plonger et la foule se penche. Mais l'épée a plongé et la foule est debout. C'est l'instant de triomphe où les épiciers se prennent pour Néron. C'est l'instant de triomphe où les Anglaises se prennent pour Wellington. Est-ce qu'en tombant à terre, les taureaux rêvent d'un enfer où brûleraient hommes et toreros défunts? Rien à l'heure du trépas ne nous pardonnerait-il pas en pensant à Carthage, Waterloo et Verdun, Verdun?
J'aimerais bien être un drogué ou un alcoolique ou un joueur. Vous savez, ça doit être fantastique, ça doit vous remplir la vie. Moi, j'y arrive pas, quoi. Ça va pas. J'aime pas ça. Alors, j'ai une passion, c'est la peur. La peur, pour moi, c'est une chose formidable. Et j'ai de moins en moins peur, puisque j'aime ça. Vous comprenez? Ben oui, il y a usure des passions, n'est-ce pas? Je suis obligé d'augmenter les doses. Alors, je m'invente des choses où je prends des risques, où ça frissonne de partout. Je sais que dans la vie, ce qui est formidable, c'est l'acte de vivre. Et je ne sais vraiment rien d'autre.
Ce chapitre, comme les 7 précédents, ne cherche pas à figer une image définitive de Brel. À la lumière de fragments de ses interviews et de témoignages de ses proches, se révèle par petites touches une part de vérité de l'homme. Un portrait impressionniste pour approcher l'essentiel, le sens de la vie, Dieu, autrui, la mort et l'autre côté. 20 ans après son dernier voyage, Brel touche de nouvelles générations et ses chansons persistent à nous remuer avec cette force qui caractérise la vie de leur auteur. 20 ans déjà, et malgré la déchirure, Jacques, on t'aime encore, tu sais, on t'aime.
Jacques Brel, à mon avis, n'était pas évangélisé.
Père André, religieux à Athiona.
Il l'était déjà, un peu, à sa manière. Il avait été formé par des, comme il disait, par les curés, les Augustins, qui lui avaient appris à lire, à écrire sur un secrétaire, debout. Il m'avait montré ce secrétaire. Et il n'écrivait jamais autrement. Jamais assis. Me disait-il. Et ensuite, bon, il avait eu une formation religieuse. La messe, comme c'était autrefois dans les collèges, tous les matins. On était heureux de dire qu'il a vendu aussi bien le témoignage chrétien, mais il aurait pu vendre aussi l'humanité, qui me disait, vous voyez, voilà le genre de réponse. Vous voyez, mais j'ai vendu le témoignage chrétien au port des églises, mais vous savez, j'aurais pu aussi bien vendre l'humanité. Hein. C'était bon, j'aimais ça. Mais c'était, voilà la réponse. Toujours, il corrigeait, il semblait un petit peu comme honteux d'avoir vendu le témoignage chrétien, alors il le corrigeait par... Jacques Brel, certainement qui était préoccupé, comme vous dites, de Dieu, certainement. Mais il ne voulait pas se l'avouer. L'impression que ça me donne, hein, je ne veux pas dire qu'il ne m'a pas fait de confidence hein, de ce côté-là, mais il posait des questions. Il posait des questions aux prêtres, certainement. Okay. Mais alors, dans ces questions, il n'attendait pas du tout une réponse. Ça ne l'intéressait pas. C'était un jeu chez lui. Et est-ce que ce n'est pas révélateur de sa vie, justement? Un jeu. Il voulait surtout, ce qui l'intéressait, c'était si j'étais assez rapide pour lui répondre. Puis après tout, il posait la question de Dieu, peut-être, sous forme... Et... Tout de suite, il parlait. Qu'est-ce que vous en pensez de ce vin? Il est excellent, père. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Il disait pas père. Je pense pas. Je me souviens pas qu'il disait père. Il m'appelait André. Hein? Mais il me posait la question. Moi, je lui avais posé la question. Enfin, une de ses chansons, j'avais retenu cette phrase. Et si c'était vrai? C'était à propos de l'Évangile qu'il posait cette question. Et si cela était vrai? Il avait souri.
Toi, si t'étais le bon Dieu, tu ferais valser les vieux aux étoiles. Toi, si t'étais le bon Dieu. Pour les gueux,
Marc Bastard, ami de Brel.
C'était un faux non-croyant. Je l'ai décelé parce que je le connaissais bien. Je suis arrivé à bien le connaître. Hein. Il affichait son scepticisme, son machin, mais il faisait des références qu'à la religion tout le temps. Il y avait une contradiction.
Je n'ai jamais eu d'angoisse. Enfin, la métaphysique également me paraît une espèce de chose qui m'échappe. Oui. Il faut, vous comprenez, pour tout ça, je crois qu'il faut avoir foncièrement très peur, n'est-ce pas? Et je crois qu'il faut croire qu'on est capable de trouver une solution. Or, je ne suis pas suffisamment lâche que pour avoir cette peur-là, et je ne suis pas suffisamment prétentieux pour croire que je vais apporter une solution à la peur que j'aurai éventuellement. Alors, je ne suis pas croyant, et je ne suis pas philosophe non plus.
France Inter, Brel au micro de Jean-Pierre Chabrol.
Quand tu avais 20 ans, quand même, tu avais un certain nombre de certitudes. Tu sais, à ce moment-là, on est tous pareils. Qu'est-ce qu'il en reste?
J'avais l'envie d'aimer. Et ça m'est resté. J'avais l'envie d'être un outil. Je ne peux pas bien expliquer ça. C'est-à-dire que j'ai toujours donné priorité à la fonction que je pourrais avoir. Tu vois? Au détriment même de ce que je serais moi en faisant cette fonction. Ça s'est resté aussi. Alors il y a des choses qui se sont effritées. Par exemple, la confiance immédiate est une chose qui s'effrite. J'avais peur. C'est parti aussi.
Je me demande si c'est pas un peu dommage.
J'ai presque plus peur. Ouais.
Tu as plus peur de rien?
Presque non.
Tu as plus d'angoisse?
J'ai plus du tout peur de mourir, donc j'ai plus peur.
Et pourquoi tu as plus peur de mourir?
Bah, je sais pas.
C'est une humeur.
C'est un peu une humeur, ouais. J'ai plus peur de mourir.
Parce que tu as oublié ce qu'était la mort.
Non.
Ou alors que tu es écœuré du monde.
Non.
Je comprends pas.
Je crois que je m'intéresse plus du tout. Ce qui m'intéresse, c'est faire des trucs, c'est rencontrer des gens, c'est des batailles. Mais je me vois là-dedans comme un outil. Je fais faire des trucs à Brel.
C'était en fait quelqu'un à la fois de... On pouvait pas le rater quand il était là, quoi.
France Brel, fille de Jacques.
Mais de très discret aussi, même si parfois il avait des coups de gueule ou des coups de colère. Mais si vous aviez l'occasion de le rencontrer, je crois qu'il vous parlerait de vous. Et je crois qu'il essaierait de vous faire réfléchir, parce que c'était un homme en général qui avait le talent de reposer des questions aux gens. Et il aurait tenté de sonder l'amplitude de votre plaisir à faire les choses, par exemple. Il vous demanderait un petit peu de raconter votre vie, de vous dire, ben voilà, et pourquoi est-ce que vous faites ça? Il y a longtemps que vous vouliez faire ça? Et est-ce que vous êtes content? Est-ce que c'était en fait exactement ça que vous vouliez faire dans votre existence? Et qu'est-ce que vous aimez d'autre? Mais qu'est-ce qui vous empêche de faire autre chose que vous aimez aussi? Et je crois que c'est un petit peu ça, toutes les chansons de Brel, ce sont toutes les questions qu'il nous laisse comme ça avec 3 points de suspension. On peut répondre ce qu'on veut. Mais si on répond en certains termes de vraiment plaisir et émotion personnelle, je crois que c'est un duo gagnant. Et c'est peut-être pour ça que Brel fait un peu partie de la famille des gens. Il nous parle comme s'il était là, comme si c'était vraiment lui qui nous posait ces questions. Mais c'est nous qui faisons le travail. Mais il y a des gens qui ont ce talent-là de nous remettre en question sans même nous avoir rencontrés un seul jour. Pour lui, c'était essentiel, en tous les cas, de savoir s'il était vraiment bien dans sa peau et s'il faisait vraiment ce qu'il voulait. Et il s'étonnait souvent en disant, c'est marrant, les gens trouvent que je ne suis pas comme eux. Et lui disait, mais c'est eux qui ne sont pas comme moi. C'est eux qui sont anormaux, ce n'est pas moi. Et ça, c'était tout à fait brélien, je dirais.
Moi, je me dis de temps en temps que j'ai peut-être plus de temps qu'un autre dans la vie. Alors que... Je crois qu'on a des pouvoirs momentanés. Je crois que les hommes ont des pouvoirs momentanés, vous comprenez? Alors là, je suis très déformé par l'activité que j'ai depuis 15 ans. Et il se fait que le music hall, ce mot qui ne veut rien dire, que le music hall donne un relatif pouvoir qui n'est pas d'un niveau extrêmement élevé, n'est-ce pas? Mais le donne. Si un jour vous pouvez aller chanter, c'est aussi stupide que ça, mon raisonnement. Si un jour vous pouvez aller chanter, vous allez chanter à l'œil, et que, parce que vous chantez gracieusement, n'importe comment, enfin, il y a des tas de mots imbéciles qui disent ça, des gens peuvent partir avec 2 millions pour s'occuper de petits vieux ou de petits mots. Moi, vous comprenez, tous les raisonnements philosophiques s'effondrent. 2 millions à donner à manger à des petits vieux, ça prime n'importe quoi. Voilà un pouvoir momentané. Après, des gens viennent me dire que mes chansons, c'est pas ceci, c'est pas cela. Je m'en contrefiche. Qu'est-ce que c'est que le jugement d'un homme à côté de 2 millions dans une assiette? C'est imbécile, c'est puéril ce que je dis. Mais j'ai quand même, je n'ai pas encore rencontré un argument sérieux m'interdit de faire ça.
Gérard Joannest, accompagnateur.
Moi, je l'ai vu faire des galas impressionnants dans des sanatoriums. Et puis surtout, à côté de Liège, il y avait un hôpital où il y avait des gens dans des poumons d'acier. Et... On venait faire on travaillait le soir dans une salle et l'après-midi on venait faire ce gala et c'était des rangées de poumons d'acier. On voyait que les têtes qui sortaient et lui devait chanter devant ces gens. On avait du mal à jouer parce que c'était impressionnant. Ça faisait peur et lui chantait comme s'il était à l'Olympia mais de toutes ses forces. Et forcément, après chaque chanson, pas beaucoup de bruit. Et c'était très difficile à tenir. Et à la fin du spectacle, nous, on partait dans les coulisses. Et lui allait dans la salle voir chaque personne, parler avec chaque personne qui était allongée dans ses poumons. Et il faisait ça à chaque fois qu'on passait à Liège. Il faisait des choses comme ça.
Je rencontre un nombre incroyable de gens. Et ils sont tous passionnants. Il suffit de les aimer un peu pour découvrir qu'ils sont passionnants. Et ils sont vraiment passionnants. Alors j'apprends des tas de choses. Et en plus, ils me parlent plus qu'aux autres, puisque je suis un bohémien. Moi, je m'en vais le lendemain. Ils osent me dire des choses qu'ils n'osent pas dire à un chef de bureau ou une épouse.
Pourtant, les hôtesses sont douces. Aux auberges bordées de neige. Pourtant, patientes les épouses que les enfants ont prises au piège. Pourtant, les auberges sont douces, où le vin fait tourner manège. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? Pourtant les villes sont paisibles, où tremblent cloches et clochers. Mais le diable dort-il sous la Bible? Mais les rois savent-ils prier? Pourtant les villes sont paisibles, de blanc matin en blanc couché. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? Pourtant il nous reste à rêver. Pourtant il nous reste à savoir. Et tous ces loups qu'il faut tuer, tous ces printemps qu'il reste à boire. Désespérance ou désespoir, il nous reste à être étonné. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? Pourtant il nous reste à tricher, être le pic et jouer cœur, être la peur et rejouer, être le diable et jouer fleur. Pourtant il reste à patienter, bon an, mal an, on ne vit qu'une heure. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient?
Georges Brassens.
Et moi quand j'ai entendu ça et quand j'ai vu de quelle façon, avec quelle véhémence, avec quelle présence, avec quel plaisir charnel Brel chantait ses chansons, j'ai pensé qu'il était promis à un gros succès, et je lui ai dit, écoute, au lieu d'aller faire du cartonnage en Belgique, tu ferais mieux de rester à Paris. C'était difficile de rester à Paris parce que il était complètement fauché. D'ailleurs, moi aussi, je débutais, c'était en 52. J'avais même pas de quoi le loger non plus, et des tas de copains le prenaient, et il allait coucher dans des halls de gare, il allait coucher dans le métro, il allait coucher chez moi une nuit, enfin chez Jeanne, il couchait à droite et à gauche, mais il a quand même trouvé dès le début, et c'est ce qui est important dans ce métier-là, il a trouvé quand même 5 ou 6 personnes qui lui ont dit, ce que tu fais c'est bien, et continue.
Jacques Brel sur France Inter.
Oui, il doutait complètement, puisqu'il m'a posé la question un jour, il m'a dit, tu crois que je dois m'arrêter ou continuer? Et moi, je lui ai dit, continue. Mais en lui disant ça, peut-être que je l'ai laissé se noyer, parce qu'on ne sait jamais. Je pense qu'aux dernières années de sa vie, c'était un homme heureux. Avant, je ne crois pas. Mais qui c'est qui est heureux? C'est difficile de vivre. Peut-être était-il heureux simplement de s'en être tiré de sa maladie. Il croyait s'en être tiré, il était peut-être heureux, peut-être que ça suffit à un homme qui a été gravement malade, dangereusement malade, sur le point de mourir, de s'en être tiré, peut-être que ça suffit pour le rendre heureux. Ah, quand il est venu la dernière fois, on a plaisanté toute l'après-midi, en particulier sur la mort, ce qu'on faisait souvent d'ailleurs, parce que on aimait rigoler là-dessus. Seulement aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas là, ça m'est plus difficile de rigoler sur les corbillards et sur les croque-morts et sur tout ce qu'on faisait d'habitude. Parce que d'habitude, on se marrait très fort avec ça. Et je pense qu'avec les chansons qu'il nous a laissées, il est vivant maintenant. Et il va continuer à vivre longtemps.
Quand on a mal au dos, on fait « Oh !»
on est choqué par la vie. On écrit des livres, on fait des films, on écrit des chansons. C'est Brassens qui dit ça. Il dit « Je pousse des petits cris comme un oiseau qui a mal ». C'est exactement... Je le dis autrement parce que lui, comme il est du midi, l'amour ressemble à un pétale de rose. Moi, il me faut des montagnes parce que je suis d'un pays plus barbare. Mais c'est la même chose, je crois. En fait, je me sens continuellement agressé. C'est pas de la... Parfois, les gens me disent que je veux choquer des gens. C'est pas vrai. J'ai mal quelque part. Mais tout le monde, quand il crie, hein. Personne ne crie. Ou alors pour vendre des journaux. Et c'est qui la faim. Tous les cris, c'est de la douleur. Mais j'aime bien les gars qui disent... Oh, ça me fait mal. C'est pas tout à fait de la faiblesse, c'est aussi peut-être de la sensibilité, enfin, de la tendresse ou de la chaleur. En réalité, ce sont les hommes qui ont mal aux autres. J'aime bien les hommes qui ont mal aux autres.
Daniel Odera.
Or, comment est-ce qu'on passe le temps? On parle, mais on l'écoute parler beaucoup. On l'écoute parler. Il a tellement à dire, tout le monde le sait, c'est un homme qui a été d'une vision lucide, extraordinaire, parce que on écoute ses chansons aujourd'hui, on pense pas qu'elles ont été écrites il y a 35 ans même, parce qu'elles sont tellement actuelles. Alors, il nous écoutait et je crois qu'il devinait. C'était un homme tellement plein de tendresse, peut-être parce qu'il en avait manqué, et c'était ce qu'il recherchait en premier chez l'autre. Une relation basée sur la tendresse. Et à partir de là, on pouvait parler, on pouvait échanger, on pouvait aller au bout de ses peurs, de ses angoisses, de ses doutes, à partir seulement d'une relation basée sur le cœur et la tendresse.
Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais. Moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements, tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Mais finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cordage, et plus le temps tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège?
que vivre en paix pour des amants. Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
En fait, quand je travaille une chanson de Brel, je m'imprègne de son excès, de ses excès. C'est-à-dire autant de sa tendresse, de ses révoltes, de son amour des gens et de la vie, de ses haines, donc de ses excès. Parce que moi, je pense que c'est une des choses qui me touche le plus chez lui. J'ai toujours pensé d'ailleurs qu'il était, je vais peut-être me faire détester en disant ça, mais qu'il était capable du pire comme du meilleur. Je suis pas une fan de toutes ces chansons, mais les chansons que j'aime, je les aime pour de bon. J'ai une tendresse particulière pour les vieux que j'ai interprétés. Et la chanson des vieux amants, mis à part la phrase « il faut bien que le corps exulte », que je trouve épouvantable, il y a « Les désespérés » qui est une chanson que chantait Danny Klein et que j'aurais voulu chanter tous les soirs quand j'ai fait partie du spectacle sur Brel. Elle était exactement à 2 mètres de moi quand elle chantait cette chanson et tous les soirs j'étais jalouse, j'avais envie de la chanter à sa place. J'aime bien le drame chez Brel, j'aime bien ses chansons tristes. J'aime Ne me quitte pas, qui reste un des grands classiques. J'aime son côté intemporel parce que c'est vrai que dans 20 ans, dans 40 ans, il sera toujours là. Mais je travaille pas vraiment ces chansons, en fait. Je m'imprègne plus de j'imagine plus ses humeurs, ou du moins ce qu'elles étaient, que je ne travaille vraiment une chanson. Brel interprète me fascine. J'ai pas eu la chance de le voir sur scène, mais à chaque fois, par exemple, que je revois, notamment, la chanson Ne me quitte pas à la télé lors d'un de ses derniers Olympia, je crois d'ailleurs, je pense que c'était le dernier. Je suis émue aux larmes, j'ai des tremblements, Brel interprète est génial parce qu'il transperce physiquement, quoi. Il se passe quelque chose de physique. On reçoit physiquement ses interprétations et je trouve que ça, c'est, quand c'est ça, c'est gagné, quoi. Donc, j'enragerais toujours de ne pas l'avoir vu pour de vrai sur une scène. Moi, j'aime le côté intemporel de Brel. Il y a des chansons qui ont existé il y a 20 ans et des chansons qui existent toujours aujourd'hui et qui voyagent tout le temps. C'est-à-dire, elles se démodent à un moment donné pour mieux revenir à un autre moment. Elles voyagent, ces chansons, et dans 20 ans, on les écoutera, dans 30 ans, on les écoutera. Je crois que c'est quelqu'un qui restera toujours, mais les chansons bougeront toujours. C'est-à-dire, je crois qu'au fil des époques, on les recevra aussi fort et différemment.
Jacques Brel, sur France Inter.
Belge, oui. Mais lui, c'est un autre calibre de moi. Hein.
Arnaud.
Parce que lui, c'était... Pour moi, c'est un artiste total, parce qu'il a fait des films aussi qui sont très bien. Un acteur, c'est un très bon acteur, moi je trouve. Un bon chanteur, un bon musicien. Lui, il a tout. Hein, et peut-être c'est pour ça qu'il a... Lui, il était vide à 40 ans. Quoi. Donc il a tout fait, quoi. Et je trouve ça très dommage que, par exemple, à l'étranger, qu'on pense toujours que c'est un Français. Même des Français pensent que c'est un Français. Est-ce que tu comprends mon bazar? Très difficile de chanter, Brel. Parce qu'il fait ça mieux que nous.
Donc c'est lui qui a écrit le truc. Et donc et j'ai acheté un livre de Brel avec tous ses textes et j'ai vu le texte, j'ai dit ça, je peux pas chanter ça. Parce que c'est long comme la Bible, le texte, et il faut être en dedans. Quoi. Et j'ai trouvé un texte comme ça que je suis tombé. C'était une chanson de son dernier album qui s'appelle Le Bon Dieu. Et c'est un texte avec de 3 couplets. Et c'était très court. Et j'ai fait un arrangement de ça, qui n'a rien à voir avec son arrangement, seulement le texte que j'ai gardé.
Toi, toi si t'étais au bon Dieu, tu ferais valser les vieux aux étoiles. Bon Dieu, tu allumerais les balles pour les gueux.
Je pense que Jacques était un type aussi nécessaire que l'a été Chaplin ou que l'ont été des gens qui nous ont enrichis comme Trenet ou comme Brassens ou comme Cossimon. Je pense que ça a été des grandes plages, des grands ciels comme Magritte les peignait. Je pense que tout d'un coup... Ça a été des bouffées d'oxygène terribles qui sont arrivées, qui sont intervenues et avec lesquelles il faut compter dans la vie. Je trouve que c'est des coups de bol d'avoir tout d'un coup comme ça quelque chose qui vous tombe dans l'oreille.
Claude Semal.
Moi, j'ai plutôt été influencé quand j'étais gamin par des gens comme Vian, comme Brassens, comme Bob Dylan. Et c'est plutôt récemment, je dirais, que je me suis rendu compte, avec le recul... de cette espèce de proximité sudoripère que je pouvais avoir avec un chanteur comme Brel, et puis évidemment avec les thématiques qui étaient les siennes. C'est marrant parce qu'avec le recul du temps, l'image qu'on en a, c'est plutôt de quelqu'un de plus polissé. C'est le chanteur poli, gentil, poétique du plat pays qui est le mien, et des textes un petit peu de l'eau de rose des débuts. Il faut pas oublier que Brel est quelqu'un qui a écrit des chansons très très violentes.
Brel, c'est quelqu'un qui aujourd'hui serait probablement encore comme il l'a été probablement dans sa fin, encore en plus, un peu plus en avance sur ce qui se dit, sur ce qui se fait et sur ce qui se geste aujourd'hui.
Alain Leprest, chanteur français.
C'est quelqu'un de toute façon qui... à force de ne pas courir les modes, je veux dire, et rester dans le cœur de chacun. C'est aussi quelqu'un qui n'était pas destiné forcément à faire de la chanson, était destiné à courir, à vivre, à être rebelle. C'était un chanteur à la fois qui pouvait utiliser des phrases compliquées, à la fois des... qui pénétrait le cœur des gens comme si C'était eux qui les avaient dites. C'était quelqu'un qui apprenait aux autres une certaine forme de générosité. Je crois qu'il l'a suffisamment fait partager quand, dans son peut-être dernier voyage dans les Marquises. C'était quelque chose qui avait marqué chacun quand il servait de petit avion taxi, de petits facteurs pour traverser entre des îles avec des lettres pour chacun. C'était quelqu'un qui savait tresser des mots comme un adolescent de 40 ans qui rendait des mots simples avec une profondeur de vieillard. C'était quelqu'un qui avait vécu 100 ans en étant mort à la moitié du chemin. C'était quelqu'un qui aussi faisait rire lorsqu'il disait des mots tristes et rendait tristes les gens qui croyaient rire sur ces mots-là. C'était quelqu'un aussi que j'ai découvert à l'âge de 15 ans, que je ne comprenais pas tout à fait, mais qui m'enjolait déjà par ses musiques, parce qu'il la liait personnellement, lui tout entier, la musique et le sens et la forme. C'était, il aurait pu être finalement le premier belge académicien français.
Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. La pluie les a soudés, semble-t-il, l'un à l'autre. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et je les sais qui parlent, il doit lui dire je t'aime, elle doit lui dire je t'aime. Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre. Ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et brusquement ils pleurent à gros bouillons, tout entourés qu'ils sont d'adipeux en sueur et de bouffeurs d'espoir qui les montrent du nez. Mais ces deux déchirés, superbes de chagrin, abandonnent aux chiens l'exploit de les juger. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche, avec ou sans Béco. Et maintenant il pleure, je veux dire tous les deux. Tout à l'heure c'était lui lorsque je disais il. Tout encastré qu'ils sont, ils n'entendent plus rien que les sanglots de l'autre. Et puis infiniment, comme deux corps qui prient, infiniment lentement, ces deux corps se séparent. Et en se séparant, ces deux corps se déchirent, et je vous jure qu'ils crient. Et puis ils se reprennent, redeviennent un seul, redeviennent le feu, et puis se redéchirent. Se tiennent par les yeux, et puis en reculant, comme la mer se retire, ils consomment l'adieu, ils bavent quelques mots, agitent une vague main, et brusquement ils fuient sans se retourner, et puis ils disparaissent, bouffés par l'escalier. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche, avec ou sans Béco. Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier, et elle reste là. Cœur en croix, bouche ouverte, sans un cri, sans un mot. Elle connaît sa mort, elle vient de la croiser. Voilà qu'elle se retourne. Il se retourne encore, ses bras vont jusqu'à terre. Ça y est, elle a 1000 ans. La porte est refermée, la voilà sans lumière. Elle tourne sur elle-même, et déjà elle sait qu'elle tournera toujours. Elle a perdu des hommes, mais là, elle perd l'amour. L'amour le lui a dit, revoilà l'inutile, elle vivra de projets qui ne feront qu'attendre. La revoilà fragile, avant que d'être à vendre. Je suis là, je la suis, je n'ose rien pour elle, que la foule grignote comme un quelconque fruit.
Mich Brel.
Il est tellement présent encore aussi dans le travail que je fais, dans partout. Parfois je me dis qu'il est allé boire des bières avec Jojo et qu'ils discutent ensemble. À mon avis, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Ils sont occupés à refaire les élections de dimanche à deux, sûrement. Il y a encore tellement de gens qui le connaissent, surtout des jeunes, parce que ça, ils ne l'ont jamais vu en scène. Mais ça veut dire peut-être que ces chansons n'ont pas d'âge, enfin, pas toutes, mais qu'on peut reprendre des textes qu'il a écrits il y a 30 ans et qui s'appliquent exactement au monde d'aujourd'hui. Les chansons et... Non, ça va. Mais c'est voir vivre quelqu'un sur un écran. Ça, c'est trop dur.
France Inter.
J'ai des choses que je n'attendais pas. Une relative réussite, enfin. Je ne m'y attendais pas du tout. J'attendais, d'autre part, une relative fraternité. Je ne l'ai pas eu, non. Ça, je ne l'ai pas eu. Entre complices, il y a trop d'argent là-dedans. Trop d'envie, trop de besoins. Trop de nécessité. C'est trop éclaté, c'est trop répandu. C'est un petit système solaire, tout ça. Alors il y a trop d'individus qui ont trop peur. Et dès que ce qu'on sait, le poids de la balance de ce qu'on sait, est plus léger que le poids de sa peur, ça devient facilement dantesque. Et alors les hommes deviennent de plus en plus isolés, obligatoirement. D'un autre côté, j'ai eu des cadeaux admirables. Admirables. Se dire qu'on a pu être utile de temps en temps une fraction de seconde. Enfin, j'ai au moins vécu 10 minutes par an, hein. je l'avoue, et j'en suis fier. On peut violer certaines lois. Comme un avion qui s'envole, ça m'éblouit, et ça m'éblouira toujours, parce qu'on viole une loi élémentaire. Et l'acte gratuit, quand on peut lui donner un certain poids, c'est de l'orgueil pur et simple, mais on se cautionne un tout petit peu. Et ça, c'est bien. Ça, c'est une chose. Ça m'a tenu debout pendant des années. Et c'est pas vilain, malgré tout. Moins vilain que des béquilles pour tenir debout. Je croyais que ça allait se passer. Quand je parle de complicité, de bonne raison de se justifier, enfin de ne pas se cracher à la gueule tous les soirs en se couchant, je croyais que ça allait se passer sur un plan non pas public, mais beaucoup plus, je dirais pas intime non plus, mais serré, enfin, à l'intérieur d'une chaîne. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore que j'allais choisir la mobilité. Je ne le savais pas encore. Je ne savais pas encore que j'avais besoin d'être mobile. Je ne savais pas encore que j'allais avoir à choisir entre l'envie de liberté, que j'essaie d'assouvir par la mobilité, parce qu'un homme immobile est prisonnier, je crois. Et j'ai avoir à choisir entre ça et entre le fait d'éclater. Et puis finalement, on ne peut pas dire que j'ai choisi d'éclater. Ça a éclaté. C'est comme les fruits mûrs, ça. Il y a un moment où j'ai senti que c'était raté. Oui, l'autre. Le rêve était raté. Et puis j'ai rencontré, heureusement, en même temps, obligatoirement, un autre rêve. Le rêve d'éclatement, enfin, et de mobilité. Mais c'est la liberté dans le mouvement, c'est certainement vrai. Enfin, je pense à... La preuve, c'est qu'on met les prisonniers entre quatre murs. C'est une preuve idiote, enfin. C'est une preuve que j'aime bien. Le fait d'assumer rend esclave, quand même.
le fait d'être honnête rend esclave. Enfin, d'essayer d'être honnête. On s'impose une quantité de choses qui... Parce qu'on en a envie, et on se retrouve ligoté, enfin, c'est certain.
Se tiennent par la main et marchent en silence dans ces villes éteintes que le crachin balance. Ne sonne que leur pas, pas à pas, fredonné. Ils marchent en silence, les désespérés. Ils ont brûlé leurs ailes, ils ont perdu leurs branches. Naufragé que la mort paraît blanche, ils reviennent d'amour, ils se sont réveillés, ils marchent en silence, les désespérés. Et je sais leur chemin pour l'avoir cheminé. Déjà plus de 100 fois, 100 fois, plus qu'à moitié. Moins vieux ou plus meurtri, ils vont le terminer. Marche dans le silence. Désespéré. Et en dessous du pont, l'eau est douce et profonde. Voici la bonne hôtesse, voici la fin du monde. Ils pleurent leur prénom comme de jeunes mariés, ils fondent en silence les désespérés. Que se lève celui qui leur lance la pierre. Il ne sait de l'amour que le verbe s'aimer. Sur le pont n'est plus rien qu'une brume légère. Ça s'oublie en silence ceux qui ont espéré.
Ma vie est assez joyeuse. Elle n'est pas heureuse. Pour la bonne raison qu'on n'a jamais trouvé une définition du bonheur, comment voulez-vous. Puis j'ai tellement de besoins, d'envie. J'ai tellement envie de réaliser des rêves que je n'arriverai jamais à réaliser, comme tout le monde, comme vous. Il y a des moments de désespoir qui ne sont pas tristes. La désespérance n'est pas un drame.
À s'offrir en partage au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on a
Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs.
Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson. Et matin, pauvres et malandrins, le manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en prière pour les maux de la terre, en simple troubadour.
Offrir à cela dans l'unique combat et de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque
Aimé jusqu'à la déchirure. Une série proposée par la communauté des radios publiques de langue française et présentée par Morane. Archives sonores et production, INA, France Inter, Radio Suisse Romande, Société Radio-Canada et RTBF. Producteurs délégués Hélène Azera et Jean-Charles Simon. Mixage, Roland Fortan, Jean Cobergs, Pierre-Joseph Franquin. Réalisation Ninette Godefroy, une production de Philippe Luters.